Est-ce que vous connaissez ces trois petits singes? Non, vous avez jamais vu ces trois petits singes? C'est des petits singes qu'on rencontre parfois sur Internet, qui symbolisent une certaine sagesse asiatique. Je dis une certaine sagesse parce qu'en fait, il y a plusieurs interprétations à ces trois petits singes. A priori, l'interprétation officielle, c'est que le secret du bonheur, c'est de ne pas voir le mal, de ne pas écouter le mal et de ne pas dire du mal. Ouais. En fait, on pourrait avoir une vision un petit peu plus négative de ces trois petits singes. Et c'est cette vision un petit peu négative de ces trois petits singes que je vais utiliser aujourd'hui pour cette prédication. Ces trois petits singes peuvent aussi symboliser une tendance que nous pouvons avoir à ne pas vouloir voir une certaine réalité, ne pas vouloir entendre une certaine réalité. Finalement, c'est le titre de cette prédication, de dire « c'est pas mon affaire ». De voir quelque chose et de dire « c'est pas mon affaire ». Je ne sais pas si vous êtes du genre, quand il y a quelque chose de choquant, quand il y a quelqu'un qui fait le mal, ou quand vous faites le mal, à dire « non, j'ai rien fait, on se bouche les oreilles, on se bouche les yeux, on se bouche la bouche, on n'en parle pas, et tout ça passera ». C'est un peu ce qui se passe quand il y a un scandale, notamment dans les médias, hein, les scandales d'agression sexuelle par exemple. On s'aperçoit, quand il y a une personnalité qui est tombée, on s'aperçoit que beaucoup de gens savaient. Mais les gens disaient, ouais, il y a une rumeur, mais c'est pas mes affaires. Mais on savait pas que c'était autant. Ah ouais, on savait pas qu'il allait jusque-là, on savait pas qu'il y a autant de personnes. Mais on savait. Et certains après disent, mais on n'est pas sûr, il faut pas en parler. Il faut que la justice fasse son travail, mais pour l'instant, on ne peut pas salir la réputation de quelqu'un. N'en parlons pas. On va voir un passage biblique, justement, où cette expression, c'est vos affaires, c'est pas mes affaires, revient à plusieurs reprises. C'est dans Matthieu 27, c'est un passage qu'on a lu en boucle pendant la période de Pâques. Mais on l'a lu en boucle et on ne l'a pas forcément médité ou creusé plus que ça. Donc je vous propose de le lire. Est-ce que ma zapette fonctionne? C'est parfait. Donc Jésus a été arrêté. Et voici ce qui se passe dans Matthieu 27. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Voyant qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, c'est ton affaire ». Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces d'argent et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le corbanas, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix attribué par les Israélites à celui qu'ils ont apprécié. Et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce dont ils t'accusent ?» Mais il ne lui répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux appelé Jésus Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Et tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Il reprit « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils crièrent de plus belle « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire !» Tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants !» Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Donc vous avez vu, il y a un mot qui donne le ton de ce passage, c'est le mot « affaire ». Affaire. Au verset 4, les anciens disent à Judas, qui est rongé par le remords, « C'est ton affaire, c'est pas notre affaire, c'est ton affaire. » Au verset 19, la femme de Pilate, qui est tourmentée par un mauvais rêve, dit à son mari « Ne te mêle pas des affaires de ce juste. » Et Pilate, voyant qu'il assiste à un coup monté des anciens, se lave les mains en s'écriant « Le sang de cet homme, c'est votre affaire. » Alors, la condamnation de Jésus, c'est l'affaire de qui, finalement ? On va voir la responsabilité des différents acteurs. Ah oui, il y a un petit délai quand j'appuie. Hop là, je regarde, je teste. Hop. La chose frappante dans notre passage, c'est que le seul qui est affecté par la condamnation de Jésus, c'est Judas. Judas. En trahissant, Judas a sûrement voulu forcer la main de Jésus afin que celui-ci se révèle et mette une raclée aux autorités juives et aux autorités romaines. C'est probablement pour ça que Judas a trahi Jésus. Mais maintenant qu'il voit comment ça se passe, maintenant qu'il voit que Jésus s'est fait arrêter sans rien dire, eh bien, Judas est seul avec sa culpabilité, car après l'avoir utilisé, les chefs juifs, les chefs religieux, le laissent tomber. C'est ton affaire. Par désespoir, Judas se suicide. On reviendra sur lui tout à l'heure. Pilate aussi comprend grâce au fait, il voit bien qu'en fait les anciens manipulent la foule, et il comprend aussi grâce au rêve de sa femme, car les Romains accordaient une place énorme aux rêves, aux signes, aux augures. Grâce au rêve de sa femme, Pilate comprend que Jésus est innocent. Mais il ne veut pas risquer une révolte organisée par les chefs juifs. Car je vous rappelle que le rôle d'un gouverneur romain, c'est de lever l'impôt. De lever l'impôt pour Rome. Donc pour lever un impôt, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait un maximum de stabilité. Donc le rôle de Pilate, c'est bien sûr de dire la justice, mais surtout d'avoir une assez grande paix intérieure pour lever l'impôt. Et donc Judas, malgré ce qu'il voit et malgré le songe de sa femme, eh bien, il livre Jésus quand même après avoir tenté de le faire libérer. Quand même, il a tenté de le faire libérer parce qu'il a vu qu'il était innocent. Mais au bout d'un moment, il lâche l'affaire quand il voit que ça commence à sentir la révolte. Ce qui n'empêchera pas, d'ailleurs, sa destitution à Pilate l'année suivante, ainsi que la destitution d'ailleurs du grand prêtre. Donc il a voulu sauver sa peau, mais ça va durer que un an. Au final, ceux qui vont assumer l'entière responsabilité de la mort de Jésus, manipulés par le Sanhédrin, c'est la foule. C'est la foule des Juifs, c'est cette foule qui va endosser la responsabilité. Et d'ailleurs, en fait, on voit qu'ils n'ont pas trop l'air de mesurer le poids de leurs paroles. Je vous rappelle, ce qu'ils disent, c'est que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. S'ils savaient que le sang de Jésus, c'était le sang de leur Dieu. S'ils le savaient, s'ils comprenaient. Mais donc, ils ne mesurent pas l'effet de leurs paroles. Car, en effet, le sang de Jésus va avoir un effet sur eux. Le sang de Jésus, parce qu'il fait partie du plan de Dieu, ce sang de Jésus va rendre caduque, va rendre périmé la première alliance, l'ancienne alliance. Et ceci aboutira à la destruction du temple de Jérusalem 40 ans plus tard. Quand ils disent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, leurs enfants vont assister à la destruction de Jérusalem et à la destruction du temple. Et on y revient dans quelques instants aussi. Cette destruction de Jérusalem est d'ailleurs ce qui se cache derrière la mystérieuse prophétie des 30 pièces d'argent dans le champ du potier. Dans les versets 5 à 10, Matthieu rapproche l'attitude de Judas, l'attitude des religieux face à Judas. Il rapproche cela d'une mystérieuse prophétie de Jérémie. Et je suis sûr que cela a dû vous surprendre, parce que Matthieu attribue cette prophétie à Jérémie, alors que vous savez pertinemment que cette prophétie provient de Zacharie 11, n'est-ce pas ? Oui, voilà. J'ai cru que vous alliez m'arrêter tout à l'heure en disant « mais c'est pas Jérémie, c'est Zacharie 11 ». Eh bien, vous aviez raison. Cette prophétie, c'est Zacharie 11. Eh bien, pourquoi est-ce que Matthieu attribue cette prophétie de Zacharie 11 à Jérémie ? Et vous savez bien sûr que c'est Jérémie 19. Eh bien, c'est parce que la prophétie de Zacharie 11 reprend et amplifie la prophétie de Jérémie 19. Que disent ces deux prophéties ? Parce que peut-être que vous avez oublié ce que disent ces deux prophéties. Ces deux prophéties annoncent que les Judéens vont être assiégés et massacrés à cause de leur trahison envers Dieu. Voilà ce que disent ces deux prophéties. Dieu va donc briser son alliance comme on brise une poterie. Voilà, c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Il lui dit, va chez un potier, va acheter une poterie et tu vas sortir de la ville et à telle porte, tu vas parler aux anciens du peuple et tu vas briser la poterie comme je brise mon alliance avec Israël. Voilà ce qui est dit dans Jérémie 19. Et donc là, en fait, Matthieu nous reparle d'un potier, nous reparle d'une alliance qui ne va pas bien. Et donc, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez. Ce qui est très intéressant ici, c'est que l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, quand Dieu brise l'alliance et qu'il dit « vous allez être assiégés, vous allez être massacrés » dans une mystérieuse vallée qui s'appellera la vallée du massacre, qu'on appellera la Géhenne. La vallée du massacre, la Géhenne. Eh bien, cette prophétie de Jérémie va être accomplie, puisque juste après Jérémie, vous avez l'exil à Babylone. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, va encercler Jérusalem, va prendre une partie de la population et va la déporter. Et au bout d'un moment, il va carrément détruire Jérusalem et détruire le temple. Donc, la prophétie de Jérémie s'accomplit. Mais Zacharie, quand il reprend la prophétie de Jérémie, reprend cette rupture de l'alliance, reprend le siège, reprend tout cela. Mais sauf que derrière Zacharie, il n'y a pas d'exil. Il n'y a pas d'exil. Au moment de Zacharie, le temple est en train d'être reconstruit, la ville est en train d'être reconstruite. Et donc, il reste un accomplissement à cette prophétie de Zacharie, surtout qu'il rajoute à la prophétie de Jérémie qu'un mystérieux berger va faire son apparition. Un mystérieux berger va arriver et il va avoir pour rôle de faire paître le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu va se lasser de lui. Et le peuple de Dieu va aussi lasser le berger à force de faire n'importe quoi. Et donc, les chefs religieux qui ont embauché le berger pour faire paître le peuple de Dieu vont le remercier et vont, comme paye, lui filer 30 pièces d'argent pour son service. 30 pièces d'argent, c'est assez ironique parce que 30 pièces d'argent, c'est le prix d'un esclave. Et ce berger, parce que le peuple le rejette, ce berger va briser, non pas une poterie, mais va briser son bâton de berger pour dire qu'il brise la relation entre Dieu et le peuple. Et donc, quel est l'accomplissement de cette prophétie de Zacharie ? Et l'accomplissement, Matthieu nous le dit, c'est la trahison de Judas, c'est le fait que tout le peuple va crucifier le Fils de Dieu et que l'alliance va être officiellement détruite. Et effectivement, ça va bientôt être la fin de Jérusalem. Je vous l'ai déjà dit, en 70, Jérusalem et son temple seront détruits. Jusqu'à aujourd'hui, le temple de Jérusalem et Jérusalem sont détruits, rendant complètement impossible tout sacrifice selon la loi de Moïse. Intéressant, le seul sacrifice pour être pardonné, maintenant, c'est celui de Jésus. Maintenant qu'on a dit ça, la question qu'on peut se poser, c'est la faute à qui ? C'est la faute à qui, en fait, Jésus ? C'est l'affaire de qui ? Les manipulateurs, les véritables instigateurs de la crucifixion, ce sont très clairement les chefs religieux, les chefs juifs qui ont réussi à avoir ce qu'ils voulaient sans se salir les mains. Mais cela n'enlève pas la responsabilité de Judas le révolutionnaire, de Pilate le politique et du peuple versatile. Tous ont eu un intérêt à ne pas arrêter le processus de condamnation de Jésus. Si le Grand Conseil, le Sanhédrin, a fait office de tentateur, ils ont tous plongé avec joie dans la tentation. Mais il reste un acteur qui a lui aussi laissé faire. C'est Jésus lui-même. Lui, Jésus n'est manipulé par personne, mais il laisse les choses se faire parce que ça fait partie, bien sûr, d'un plan prévu depuis très longtemps. Depuis au moins le prophète Jérémie, l'apôtre Pierre va dire depuis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu avait prévu d'envoyer son Fils pour nous racheter. L'humanité entière, les amis de Jésus, les chefs juifs, le chef romain, les juifs dans leur ensemble, l'humanité entière devait porter le péché à son paroxysme en mettant à mort Dieu fait homme. Heureusement, le plan prévoit que ces coupables provoquent malgré eux les conditions du pardon de l'humanité. Et quand le peuple dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est à la fois une parole de malédiction pour l'ancienne alliance, mais ça peut être une parole de bénédiction. Car quand le sang de Jésus tombe sur la tête de quelqu'un, ça peut être pour le meilleur. Mais pour que ils puissent bénéficier du sang de Jésus, il faudra adopter l'attitude inverse de tous ceux qui sont dans ce passage. Il va falloir reconnaître sa responsabilité et se repentir. Car finalement, dans « c'est pas mes affaires », le mot-clé de ce passage, c'est la non-repentance. La non-repentance. Judas est le prototype de l'homme qui comprend avoir mal agi, mais qui, faute de repentance, ne peut plus vivre avec son crime sur la conscience. Sa trahison lui est tellement insupportable, et elle est tellement irréversible, qu'il se suicide direct. Voilà, c'est tellement insupportable, il a tellement trahi celui en qui il avait cru qu'il se suicide. Mais je constate que beaucoup d'autres personnes choisissent une autre forme de suicide, beaucoup moins violente, mais tout aussi autodestructrice, qui s'appelle finalement la fuite en avant. La fuite en avant. Le principe consiste à dire « Je sais que j'ai tort de mal agir, je sais que j'ai tort d'avoir telle attitude, mais à quoi bon arrêter ? À quoi bon arrêter ? Autant continuer et aller encore plus loin, encore plus loin, et m'autodétruire au final. » Cette attitude est avant tout du dépit, puisque on se dit « je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment arrêter, je ne sais pas comment faire autrement. Alors, autant y aller à fond, autant y aller à fond. » C'est du dépit. Mais c'est aussi de l'orgueil, puisqu'on se dit souvent « je ne veux pas être mal regardé par les autres. Si je dis que j'ai tel ou tel problème, si j'avoue que j'ai commis telle ou telle chose répréhensible, eh bien, on ne va plus me regarder de la même manière. On va me regarder comme un coupable. Et je ne veux pas ça. Mais aussi, si je dis que j'ai tel ou tel problème, eh bien, ça veut dire que je suis faible et que je vais demander de l'aide. Je vais être obligé de demander de l'aide et je n'ai besoin de l'aide de personne. » Cela s'appelle de l'orgueil. Cette attitude, donc, c'est du dépit mêlé à de l'orgueil. Ce dépit et cet orgueil entretiennent une vision de soi finalement qui se détériore petit à petit, puisque plus on avance, plus on continue de faire n'importe quoi. Et cette vision de soi pousse vers toujours plus d'autodestruction. Pourtant, la situation pourrait être beaucoup plus simple. J'ai commis une faute, je reconnais que j'ai commis une faute, je demande pardon à Dieu pour avoir commis cette faute et je demande pardon aux humains qui ont été les victimes de cette faute. Je demande de l'aide à Dieu et aux humains pour ne plus commettre cette faute. Je progresse et du coup la spirale est inversée. Alors que le dépit et l'orgueil font qu'en fait on s'enfonce toujours plus vers le mal, demander de l'aide, se repentir, eh bien, inverse la spirale et fait qu'on peut progresser. On peut progresser en finalement avouant qu'on est faible, en avouant qu'on est malade et qu'on a besoin d'un médecin. Avec un Dieu comme le nôtre, tout est possible. Jésus a payé à notre place, donc si nous confessons nos péchés, nous avons l'assurance d'être pardonnés. L'Esprit Saint habite en nous et en nos frères et sœurs, donc nous avons une aide surpuissante pour progresser. Alors attention à la petite voix satanique qui nous culpabilise et nous enferme dans notre péché, sans espoir d'en sortir. Cette petite voix satanique ment et veut notre destruction. Ne soyons pas comme Judas, repentons-nous et laissons-nous transformer par le Seigneur. Repentons-nous. La foule, elle, est le prototype de la bêtise collective. capable des pires atrocités sans ressentir la moindre culpabilité, puisque la responsabilité est diluée. La foule en son entier fait n'importe quoi, et à l'intérieur de la foule, les gens peuvent dire « c'est pas moi, c'est nous tous ». On se sent moins coupable, puisqu'il n'y a plus de responsabilité individuelle. On baigne dans une ambiance, on baigne dans une culture qui pousse à penser, à faire des choses totalement folles sans s'en apercevoir. Comme au bon vieux temps des années 30 en Allemagne, par exemple. L'histoire humaine a connu de multiples exemples semblables où on voit vraiment la bêtise de la foule. Quel parti politique aujourd'hui, quel média que nous regardons, quelle idéologie, quelle personnalité pourrait nous amener à faire partie de ces foules décervelées, prêtes à dire et à faire n'importe quoi? Comment faire pour ne pas céder à ces tentations? Comment faire pour discerner tout ce qui nous manipule, à discerner tout ce que nous devrions changer dans notre comportement collectif? Dieu peut nous montrer, grâce à son esprit, peut nous aider à avoir un discernement, un regard critique face aux idéologies, face aux médias, face à tout ce qui nous influence. Il ne suffit pas de devenir chrétien un jour et de ronronner dans sa foi ensuite pour avoir ce regard critique. Il faut lire la Bible, il faut relire la Bible pour intégrer la vision du monde du Seigneur, voir le monde comme le Seigneur voit le monde, et surtout voir l'Évangile comme le Seigneur voit l'Évangile. Cela prend toute une vie pour découvrir la sagesse infinie de Dieu et la mettre en relation avec ce que nous traversons pendant les circonstances de notre existence. Alors, que nous puissions nous entraîner en Église à voir le monde tel que Dieu le voit. Troisième et dernière application, Pilate est le prototype du responsable politique qui prend ses décisions par calcul politique, pour ses intérêts et non pour la justice et pour l'intérêt de ses administrés. En tant que responsable chrétien, dans une structure chrétienne ou dans une structure non chrétienne, en tant que responsable, si vous êtes responsable de quelque chose, mais si vous êtes par exemple responsable d'une famille, vous êtes aussi responsable. Comment avoir le courage de préférer l'impopularité à la lâcheté? Comment préférer la justice, même si cette justice peut nous attirer des problèmes? Eh bien, c'est simple, il faut d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste viendra en plus, comme Jésus l'a fait, sans compromission. Et les autres choses nous seront données en plus. En conclusion, cette phrase, dans tout ce passage, on nous dit « c'est pas mes affaires ». Et je pense que ce passage nous encourage à nous repentir et à laisser le Seigneur Jésus s'occuper de nos affaires. Et pour cela, il faut faire taire l'orgueil, se mettre à genoux, comprendre quel est notre problème et dire « Seigneur, je suis malade, Seigneur, c'est toi le médecin, guéris-moi, guéris-nous, occupe-toi de nos affaires. » Amen.